Allez, on est parti. Bonjour.
Bonjour.
On discutait là, on était en train de préparer Solidaire d'abord, émission sur Fréquence 7. Grâce à Fréquence 7, pas pareil, différente et tout ça, on peut faire une émission qui est pas pareil, différente et tout ça. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Pierre-Yves qui vient nous voir. Alors, je t'ai pas posé la question, Pierre-Yves, est-ce que tu viens nous voir au nom de la conf ou toi
Moi plutôt là. Ouais.
Toi plutôt.
Sur le coup.
Ouais. D'accord, parce qu'en fait, on voulait évidemment parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur à tous. C'est qu'on a vu comme ça, sans tout à fait comprendre tout, que les agriculteurs se sont mis très en colère. Est-ce que c'est tous les agriculteurs ? Est-ce que c'est tous les agriculteurs qui sont bénéficiaires de cette sortie de crise ? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent, évidemment, et donc qu'on veut te poser à toi.
On peut commencer par le commencement, c'est-à-dire que ça, en fait, cette histoire, ça a démarré. Alors, il y avait eu déjà des manifestations, vous aviez dû le marquer, qui était plutôt sympathique. Ils avaient retourné les panneaux pour dire qu'ils marchaient sur la tête. Donc ça avait été fait à partir d'octobre-novembre, je crois. On n'avait pas trop compris les revendications qu'il y avait derrière. Et puis là, en fait, c'est parti du sud-ouest d'éleveurs qui, en fait, galèrent vraiment, et surtout à cause de l'augmentation du prix du gasoil non routier. Et qui, en fait, une partie allait être remboursée par des démarches administratives. C'est vrai que c'est quand même assez complexe comme système. Et donc la coordination rurale, qui est un syndicat qui est très fort dans certains départements du sud-ouest, a tout de suite embrayé le pas. Et puis la FNSEA, quand elle a vu que la mayonnaise avait pris, s'est remis là-dessus. Et puis la Confédération paysanne a rejoint en dernier le mouvement. Alors tout était d'accord sur le constat qu'il y a un véritable problème de revenus pour les agriculteurs et les agricultrices. Maintenant, tous ne sont pas d'accord sur les solutions à apporter à cette hausse du revenu.
Oui, parce qu'à la sortie, celui qui est gagnant, c'est la FNSEA.
Alors ceux qui sont gagnants là, à la sortie, ce sont surtout ceux qui sur qui le système leur allait bien, quoi, et avant qu'il y ait ces fameuses charges qui soient mises en place. Donc oui, c'est après en fait ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est on change rien en fait.
Oui,
on change rien, on continue la politique comme elle était avant.
On enlève le GNR, là, la taxe sur GNR, c'est-à-dire ce qui convient très bien aux gros céréaliers, ouais. parce que c'est surtout eux
céréaliers
qui...
éleveurs aussi. Hein.
Oui, mais c'est surtout eux qui se retrouvent à avoir des frais très importants à ce niveau-là.
Les éleveurs aussi, ouais. Voilà. Beaucoup les éleveurs laitiers et tout ont beaucoup de frais, parce qu'ils cultivent des céréales, et ils font aussi des foins. Mmh. Moi, c'est ceux qui utilisent beaucoup de gasoil. Après, il y avait eu aussi avant la suppression des taxes qui devaient être mises sur les pesticides. Donc en fait, il y a véritablement... On n'arrive pas à franchir le pas de la transition vers l'agroécologie. On n'arrive pas à le faire parce qu'en fait, ce pas demande d'aborder un nouveau problème, c'est le prix de l'alimentation.
Alors tout ça, c'est aussi parce que le système libéral mondial... En fait, tient tout le monde dans sa main. C'est-à-dire que de toute façon, pour arriver à s'en sortir, on est obligé d'être en concurrence avec des produits qui viennent de pays soit proches dans l'Union européenne, mais aussi du Maroc. Ou, voilà.
Oui, même sans parler si loin que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on est même mis en concurrence entre nous, même dans le même pays. C'est pas tellement le problème. Enfin, c'est aussi un problème d'autres pays, mais c'est qui ont d'autres normes sociales et d'autres normes écologiques. Mais c'est même un problème au niveau... Enfin, c'est la mise en concurrence des exploitations agricoles les unes avec les autres qui fait que les prix sont bas. En fait, la solution, l'unique solution, ce serait véritablement que les prix soient garantis selon les productions. Alors il y a des calculs qui sont à faire, qui seraient pas très compliqués à faire, et ce prix garanti permettrait aux agriculteurs de vivre de leur travail. Et une fois qu'ils auraient un prix garanti, on imagine que si on leur disait maintenant on va vous taxer pour des raisons X ou Y vous demander de respecter des normes agro-environnementales, pour eux, ce ne sera plus un problème, puisqu'ils auront
possible.
Le revenu.
Voilà.
À partir du moment où on a le revenu pour le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce qui est difficile, en fait, ceux qui sont le plus dans la panade, c'est ceux qui ont les marges brutes les plus faibles.
Oui. Et en fait, on a tiré vers le bas tous ces prix agroalimentaires, ce qui fait que On se retrouve maintenant avec un système qui est mis en place avec, entre autres, Leclerc, comme tu disais tout à l'heure, Alain, à l'instant, qui va venir expliquer que lui, bah, voilà, il prend les prix les moins chers, hein, il met les produits les moins chers. Et on ne pose pas la question à ce système-là. On ne remet pas en question ce système-là. On va faire des modifications à la marge. Par exemple, là, ce que fait le gouvernement, est-ce qu'il a résolu le problème?
Bah après, lui, il a résolu le problème de ceux qui demandaient que ça change pas, quoi. Mais encore une fois, ce qu'on n'arrive pas à mettre en place, c'est la transition agroécologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très grave, parce que l'agriculture a un impact fort sur plusieurs problèmes écologiques, notamment sur le réchauffement climatique, en utilisant beaucoup de GNR. C'est quand même une machine de guerre. Par rapport à la chute de la biodiversité. La chute de la biodiversité, c'est pour deux raisons importantes. La première raison, c'est les monocultures. Donc l'agriculture ne s'est pas construite par des cultures variées sur l'ensemble du territoire, mais c'est sectorisé, ouais, pour plein de raisons différentes. Et enfin, l'utilisation massive de pesticides, et quoi qu'on en dise, qui continue à être utilisé, même si c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais on est quand même loin du compte, et en tout cas loin de ce qui avait été proposé par le Grenelle de l'environnement en 2017, là où avaient été créés ces fameux éco-phytos qui ont été mis en pause.
Alors toi, Alain, tu disais que tu as discuté avec des copains et qu'ils te posaient plein de questions sur qu'est-ce que c'est un agriculteur, quelque part, un petit peu.
Oui, je me suis retrouvé, disons, moi les agriculteurs, bon ben par essence, je dirais naissance, je suis né, mes grands-parents, disons, paternels, hein, je ne veux pas raconter toute ma vie, mais disons, dans ma famille, ils étaient agriculteurs, des petits agriculteurs ardéchois. Donc je sais que ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui avaient peu de revenus, hein. C'était des petites fermes. Alors aujourd'hui, bon ben moi j'ai perdu un petit peu contact avec tout ça, hein. Mais j'ai plutôt la fibre, disons, à défendre les agriculteurs, à dire attendez, c'est des gars qui bossent et qui gagnent pas à leur vie. Et je trouve que quel que soit le métier que l'on exerce, si on bosse, on doit gagner sa vie correctement. Et là, mes collègues.
Ça, quelque part, c'est la question que beaucoup, beaucoup de gens en France se sont posées quand ils ont vu ces agriculteurs aller faire ces manifs. On sent bien qu'on a des racines, c'est le
Des
cas de le
racines
dire,
paysannes, il faut pas
paysannes
remonter. Oui, c'est le cas
qui
de le
sont
dire.
pas loin, et là, elles ont été ravivées, en fait.
Et là, mes collègues, pourtant des gens que j'adore, hein, enfin des gens avec qui je partage beaucoup, ils m'ont dit, oh, bah, tu nous gonfles avec les agriculteurs. Parce que ces dégâts, d'abord, ils respectent pas du tout l'environnement, ils polluent tant qu'ils peuvent, ils empoisonnent, ils utilisent de n'importe quel produit, ils se tuent même eux-mêmes avec leurs produits, ils construisent des méga bassines, ils piquent l'eau, ils sont individualistes, ils votent à droite alors qu'en fait
ça leur sert pas.
Ouais, ça leur sert pas. Et les lois que vote la droite les dessert, quoi. Et alors je suis allé voir. Après, je me suis dit, bon, je sais que traditionnellement, je le sais, hein, mais je suis allé voir les chiffres, et en effet, oui, c'est vrai qu'ils votent plutôt Macron, et ils ont tendance à glisser vers Le Pen. Alors, pas tous, bien sûr, les généralités, c'est toujours idiot, hein, il faut se méfier, parce que, bon, il y a un pourcentage, mais c'est les statistiques, quoi. Hein. Voilà, donc, après, on sait pas trop, mais bon, je sais qu'il y a plein d'agriculteurs, disons, qui rencontrent des difficultés, en Ardèche, moi c'est en Ardèche surtout, j'aimerais savoir, on est d'ici, est-ce que les gens vivent correctement ici, est-ce qu'il y a un revenu moyen, est-ce que ça dépend de la filière dans laquelle on bosse, si c'est les fruits, si c'est les chèvres, enfin.
Bah, grosso modo, oui, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il n'y a pas d'archétype de la ferme ardéchoise. Bon, en Ardèche, on a la chance d'avoir un peu toutes les productions. C'est-à-dire qu'on a vraiment de tout qui se produit. Alors, bon, il y a même en viticulture, je crois qu'il y a à peu près 3 700 fermes en Ardèche, il y en a quasiment 1 000 qui sont en viticulture, donc ça reste la production principale. Bah, il y a tout en viticulture, il y a des domaines en Saint-Joseph qui gagnent très bien leur vie, puis il y a des petits viticulteurs qui sont dans le quart sud-est qui ont beaucoup plus de difficultés. D'ailleurs, il y a un plan aide à la viticulture qui a été activé en Ardèche. gauche par rapport à la crise qu'il y a actuellement. Mais c'est pareil, la viticulture, pendant un moment, il y avait des droits de plantation. Donc c'était une production qui a été régulée, qui a été dérégulée par les droits de plantation. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une surproduction. Donc à partir du moment où une surproduction, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'offres que de demandes et les prix baissent. Donc c'est toujours le même problème, on retombe toujours dans la même histoire. Et les quotas laitiers, c'était la même chose. Alors en Ardèche, il n'y a quasiment plus de lait. Moi, je me suis installé il y a 25 ans, il y avait 700 fermes laitières en Ardèche. Il y en a, je pense qu'elles se comptent pas sur les doigts de la main, mais enfin, il y en a quasiment plus qu'autour du Nord Ardèche, où il y a encore un peu de collecte avec... sur la Drôme et l'Isère, mais il n'y a quasiment plus de collecte laitière. Et puis l'arboriculture, la production fruitière, alors qu'on était le plus gros département fruitier de France, a complètement disparu. Et là, bah, c'est la raison principale, c'est une délocalisation qui s'est faite à cause de la main-d'œuvre trop importante. Et c'est parti dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère.
Et à un moment, on était autosuffisant en France sur la production.
Alors en fait, on n'est pas.
Est-ce qu'on l'est toujours ?
Alors c'est pas qu'on n'est pas autosuffisant, c'est super dur à dire parce qu'en fait, on exporte et on importe. Oui. Donc on fait un peu selon les marchés. Donc on pourrait être autosuffisant, ça, il y a aucun problème. Le seul truc, c'est que nous, on achète des choses qu'on produit ici. On achète du poulet du Brésil, mais on vend du poulet aussi. En fait, il n'y a pas le marché n'est pas du tout régulé et mal réparti. Mais on pourrait largement être autosuffisant. Il n'y a aucun problème. On a largement de quoi s'auto-alimenter en France.
Mais dans ce que tu es en train de dire, justement, en fait, il n'y a pas de réglementation. On a l'impression que les produits peuvent rentrer sans qu'il y ait un filtre qui permettrait à tout le monde de s'en sortir correctement, en fait.
Non seulement il n'y a pas de réglementation, mais il y a même des accords de libre-échange qui sont signés. Et en fait, ces accords de libre-échange autorisent, par exemple, le fameux Mercosur. Alors attention, hein, on a tous été contents en entendant le gouvernement dire qu'il ne signerait pas le Mercosur. Ils ont bien dit qu'ils ne signeraient pas le Mercosur dans l'État.
Dans l'État.
Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne signeront pas. Et par exemple, le Mercosur, typiquement, bah, c'est d'importer de l'alimentation. Alors là, en plus, je parle sous couvert de Julien de Normandie, qui a écrit un bouquin avec Eric Orsena qui s'appelle « Nourrir sans détruire », ou un nom comme ça, j'ai mangé le nom. Et j'ai entendu à France Info, et je ne croyais pas que c'était lui qui parlait, parce que c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, qui a failli d'ailleurs être Premier ministre, en tout cas qui était sur la liste, et qui lui-même décriait le Mercosur en disant « On va importer des poulets du Brésil, on va importer des céréales d'Amérique du Sud pour vendre nous des voitures électriques.
Oui, c'est ça.
Donc en fait, on a toujours mis les enjeux de l'agriculture en deçà des enjeux de l'industrie. Donc en fait, on n'est pas du tout dans la logique de la souveraineté alimentaire au sens où on l'entend dans le fait d'une sécurisation de l'alimentation de qualité pour tout le monde. On est dans une forme de marché mondial de l'alimentation. Et dans lequel ne compte en effet que l'aspect financier. Alors après, pour revenir à ta question, Alain, oui, il y a des petits paysans qui vendent des fromages de chèvre sur les marchés qui s'en sortent, mais c'est pas, je veux dire, il y a de tout dans l'agriculture, c'est pas unique.
Et tout à l'heure, quand on discutait, tu nous disais qu'il y avait un mouvement de fond, en France en tout cas, peut-être en Europe aussi, je sais pas, sur l'agrandissement des fermes.
Ah ben ça, de toute façon, c'est pas un mouvement de fond. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le 1962 et la naissance de la PAC, ça a été l'objectif. En fait, c'était de moderniser l'agriculture pour qu'elle nourrisse. Alors c'est vrai que ça part d'une bonne intention au départ, puisque à la sortie de la guerre, l'Europe n'est pas garantie de s'alimenter. Et le fait de garantir l'alimentation du continent, c'était garantir la paix. Donc il faut quand même avoir cette idée-là de fond qu'au départ, la PAC, c'est une idée de paix. Ce qui n'est pas un échec en soi. Ce qui ne veut pas dire que c'est une réussite non plus. Mais il y avait quand même cette idée-là. Après, la PAC a tellement bien marché qu'en 1972, Chirac, premier ministre de l'Agriculture, on est excédentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on produit beaucoup plus parce que on a mis les moyens entre la mécanisation et les produits phytosanitaires et les engrais chimiques. En plus, on est arrivé sur des sols qui étaient hyper fertiles. On a mis des engrais, des ammonitrates dessus. Ça a poussé, on a boosté les rendements. On est passé de 10 quintaux de céréales à l'hectare jusqu'à 120 aujourd'hui. On a multiplié par 12.
À l'heure actuelle, les sols, ils en sont où d'ailleurs ?
En fait, alors, on en parlera après parce que c'est vraiment l'enjeu de l'agroécologie aujourd'hui. C'est qu'en fait, on est en train, quand on parle de biodiversité, alors du coup on en parle maintenant, quand on parle de biodiversité, on a toujours l'impression qu'on parle des oiseaux, des loups, des ours et tout. Non, c'est le sol. 90% de la vie sur Terre est dans le sol. Darwin, il disait toujours, il y a 9 vaches dessous pour une vache dessus, et c'est vrai. Et en fait, si les sols perdent de leur fertilité, on ne pourra plus se nourrir. Et l'autre fois, j'ai eu la chance de faire une conférence, une rencontre en visioconférence avec le directeur scientifique de l'INRAE, qui s'appelle Christian Wiener, sur lequel on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais qui avait le mérite de dire ça, en disant quand même qu'aujourd'hui, on était dans une situation qui était plus qu'alarmante. C'est-à-dire que si on ne prend pas les décisions d'une transition agroécologique en arrêtant les monocultures et en diminuant drastiquement les pesticides, voire même en sortir définitivement, on aura un problème pour s'alimenter dans quelques temps.
C'est-à-dire que tous ces produits entrants qu'on met sur les sols, en fait, rendent les sols infertiles.
Ben à partir du moment où on met des fongicides, donc on tue des champignons, c'est les champignons qui dégradent l'humus, et à partir du moment où on met des insecticides, on détruit toute la vie qui est dans le sol. Normalement, dans un dé à coudre, de l'équivalent d'un dé à coudre de sol, il y a plus de 7 milliards de micro-organismes différents. Donc si on est là, on a un véritable problème de sol qui sont en train et donc qui demande plus d'eau parce que c'est l'humus qui stocke le l'eau. Donc si on a des sols qui deviennent donc il y a de l'érosion, etc. Donc en fait, on est vraiment dans la situation, on va quand même inquiéter.
On a toujours les gens ont toujours l'impression que quand on parle d'environnement, quand on parle de biodiversité, etc., que c'est quelque chose d'un peu dogmatique. Et en vrai, c'est pas du tout dogmatique. C'est quelque chose de tout à fait concret et qui va impacter nos vies de façon tout à fait concrète. Et ça, c'est bon de le rappeler parce que voilà, on n'est pas dans des discours philosophiques là. On est vraiment dans des choses vitales.
Et en fait, la solution pour faire cette transition vers l'agroécologie, elle demande deux choses importantes. Un aspect technique qu'on sait maîtriser. Je pense que l'agriculture biologique l'a prouvé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'améliorer. Mais on sait maîtriser, en tout cas en partie. Mais surtout, un changement d'économie agricole. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Oui.
Tu nous parlais de l'option qui était envisagée par la Confédération paysanne, qui était de sortir l'agriculture des marchés.
Bah oui.
Voilà, ça fait.
Bah, en fait, ça fait partie. Alors, en fait, à partir du moment où on va vouloir aller vers une agroécologie, on va forcément augmenter le prix de l'alimentation. C'est puisqu'en fait, on va à l'encontre de ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Donc en fait, on met des moyens de fou pour. Et qu'on paye en plus, parce qu'on paye les catastrophes naturelles, on paye toutes les dégradations qui sont faites, ça on va le payer, les eaux polluées, enfin en Bretagne ils peuvent plus boire l'eau, les algues, tout, on paye tout. C'est nous qui payons individuellement, enfin ou collectivement, ça dépend des cas. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut changer ce système et aller vers une agroécologie, on va augmenter le prix de l'alimentation. Or, ça fait, tu disais tout à l'heure, ça fait des années et des années qu'on nous explique que l'alimentation, ça doit être le moins cher, et partout. Donc forcément, et c'est vrai qu'il y a une partie de la population pour qui ça va être difficile. Donc il va falloir sécuriser.
Ça a même été un choix politique, hein, c'est-à-dire on n'a pas voulu, on a voulu maîtriser l'inflation jusqu'à un certain temps, disons les politiques. Hein, et donc l'économie s'est fait vraiment sur les revenus agricoles.
Donc en fait pour baisser le prix de l'alimentation, alors il y a tout un tas de petites techniques qu'on pourrait employer, notamment faire attention au suremballage, relocaliser au maximum, empêcher travailler évidemment sur les marges que font à la fois l'industrie agroalimentaire et à la fois les GMS. Mais à un moment donné, ben, il va bien falloir trouver une solution pour soutenir les personnes pour qui l'alimentation va devenir plus chère. Donc il peut y avoir des sortes d'APL pour l'alimentation avec des produits conventionnés ou la mise en place d'une sécurité sur l'alimentation pour tout le monde.
Mais au fond, c'est un système qu'il faut changer.
Ben oui, oui. Mais de toute façon, même l'écologie, pas que dans l'alimentation, la transition écologique va nous... Aujourd'hui, moi, je dis souvent ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on cherche des solutions techniques pour sauver ce système-là. Puis quand on verra que des solutions sciences techniques marche pas, ben on...
Parce que là, on a reporté le problème un petit peu plus loin, là, dans ce qui vient de se passer dans les 15 jours.
Oui, hein? Complètement. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, là, on a fermé, on n'encourage pas ce qui pourrait favoriser un changement, non? Pas du tout. Ouais. On a calmé la colère des agriculteurs. Les agriculteurs, leur colère était légitime, puisque ceux qui ne s'en sortent pas, on peut bien comprendre qu'ils aient envie d'avoir un revenu, ce que tu disais tout à l'heure. Mais eux, ils ont pas de revenus parce que les prix qu'on leur paye sont insuffisants et leurs charges augmentent. Donc en fait, soit on décide d'enlever leurs charges, auquel cas ben, on ne va pas vers la transition agroécologique qui demande plus, qui revient plus cher à produire. Donc la seule solution, c'est d'augmenter leurs revenus.
Mais là, donc, on s'est retrouvé aussi avec cette façon de réagir du gouvernement qui a été de deux poids, deux mesures. Hein, c'est-à-dire que on se rend compte, c'est quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, les agriculteurs de la FNSEA peuvent se retrouver à avoir des comportements extrêmement, agressifs, hein, à se retrouver à brûler. Ils ont brûlé à Bordeaux, par exemple, des établissements, ils peuvent faire des feux sur les autoroutes, ça va coûter un pognon de dingue tout ça. Alors et par rapport à ça, ben Darmanin nous explique que non, mais quand même c'est des gens qui travaillent.
Oui, non, mais après c'est sûr que vis-à-vis de ce qui s'est passé l'an passé sur les manifs des retraites, on voit bien qu'il y a deux points de mesure.
Et ce qui s'est passé à Sainte-Soline aussi.
Oui, Sainte-Soline aussi, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que
et pour les gilets jaunes aussi.
Oui, donc ça c'est clair. Ouais.
On est content que les agriculteurs se fassent panasser, ni gazer, ni mettre en garde à vue et tout ça.
On dira que c'est le comportement qui est eu pour les agriculteurs, c'est un comportement d'une démocratie normale, qui n'a pas été respectée, disons, pour tous les autres que nous avons cités.
Exactement.
Ouais, tout à fait.
Par contraste, on voit bien à quel point le gouvernement s'est mal comporté avec les manifestants.
C'est par un intérêt électoral, parce que au fond...
Bizarrement, parce qu'il n'y a quand même que 380 000 agriculteurs, donc en fait, il n'y a pas grand monde. Après, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est peut-être un peu tous... On se sent peut-être un peu tous touchés parce qu'on a des origines agricoles, plus ou moins. Oui. Donc je pense que ça peut certainement... ça doit aider, ouais, je pense.
Oui, parce que bon, on voit un agriculteur qui a des problèmes pour arriver à survivre, ou par exemple ce truc qui est absolument infernal, que je trouve inadmissible, intolérable, c'est que des agriculteurs se suicident parce qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Je trouve ça invraisemblable que des gens qui bossent se retrouvent comme ça à se mettre tout seul la corde au cou, hein, parce que c'est ça qui se passe. C'est invraisemblable, c'est insupportable, ça.
Ouais, mais en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont tombés dans une espèce de piège, en fait, dans lequel ils s'en sortent pas, ils investissent, les investissements s'alourdissent, et du coup ça marche pas, ils réinvestissent, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Ouais.
Oui, c'est ce système libéral qui les conduit à la désespérance, hein, parce qu'il faut constamment grossir, disons, sa ferme, hein, et donc acheter, investir, faire des crédits, produire encore plus, et donc travailler encore plus, jusqu'à l'épuisement.
Mais en fait, la solution, c'est pas eux individuellement de travailler moins ou de chercher autre chose, c'est véritablement de garantir des revenus. Et en fait, moi, je comprends pas pourquoi on garantit pas les prix, parce que pendant un moment, en France, on avait des prix garantis sur certains produits, notamment le livre, c'est un des rares produits qui reste encore un prix garanti. Et je vois pas où est le problème.
C'est tout à fait possible, oui. Ouais. Politiquement, c'est possible.
Et ça a été pareil pour l'essence pendant des années et des années. Le jour où l'essence a été à prix libre, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les petites stations-service ont fermé. Et en fait, je veux dire, si on garantissait des prix pour les produits d'alimentation, et c'est, à mon avis, c'est pas du tout compliqué à faire, ça réouvrirait des petites épiceries. Voilà, parce que tu n'aurais aucune raison d'aller dans la grande surface à partir du moment où dans l'épicerie de ton village, le prix serait vendu, le produit serait vendu au même prix.
On est bien d'accord, c'est-à-dire que le système de la grande distribution amène aussi ça. C'est parce qu'on a des... Je ne parle pas d'Edouard Leclerc particulièrement, mais entre autres, qu'on se retrouve dans ce problème-là. C'est-à-dire que les agriculteurs sont victimes, quelque part, de cette façon de...
Complètement, et puis ils en sont complètement conscients. Ouais. Mais le problème, c'est que les gouvernements, les uns après les autres, n'arrivent pas à engager les réformes nécessaires pour changer ce truc-là.
Juste un tout petit mot pour dire que à Saint-Pierre-de-Colombier, on sait que le tribunal de Nîmes a invalidé l'arrêt des travaux qui avait été prononcé par Privat. Hein, ça va peut-être reprendre, on ne sait pas trop. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de gens qui sont convoqués là en ce moment par la gendarmerie, en plus avec pas de vrai motif, pas de vraie convocation, et après on veut les prendre en photo, ce qui n'est pas légal. Renseignez-vous bien, c'est pas légal. Normalement, le Conseil constitutionnel dit que pour prendre quelqu'un en photo, il faut d'abord qu'il ait son consentement et il faut qu'il soit avec un avocat. Donc voilà, il y a tout ça. À bientôt.
À bientôt.
Bon courage. À bientôt.
Merci Sylvain.